12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux essais. C'est une programmation spéciale sur France Culture jusqu'au 8 avril. Programmation spéciale consacrée aux commémorations des 30 ans du génocide du Rwanda. Il en sera question ici avec cet essai. Tout les oblige à mourir, de Violaine Baraduc sur l'infanticide génocidaire au Rwanda en 1994 ou le parcours de deux femmes Hutus qui ont tué leurs enfants Tutsi. Il sera aussi question dans un second temps et sur un tout autre sujet du libelle d'Emmanuel Bobaty, Ne suis-je pas une féministe ?
Et pour en débattre, nous accueillons ce midi Marie Bouetton. Bonjour Marie.
Bonjour.
Grand reporter à La Croix, l'hebdo, face à vous, Pierre Benetti. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Co-directeur éditorial du journal En attendant Nado. Soyez les bienvenus dans les Midi de culture.
Et on commence avec le livre de Violaine Baraduc, Tout les oblige à mourir, l'infanticide génocidaire au Rwanda en 1994, paru aux éditions du CNRS.
Combien de morts au Rwanda ? Le fait est qu'on n'en sait rien. Tout ce que l'on sait, c'est que depuis 6 semaines et demie maintenant, on ne compte pas les cadavres qui s'amoncelle dans ce petit pays d'Afrique, devenu sous nos yeux, sous nos caméras, et jusqu'ici, dans l'indifférence de la communauté internationale, un génocide.
Quelle place les femmes ont-elles occupée dans le génocide du Rwanda en 1994 ? Tenues jusque-là à l'écart des massacres des Tutsis, comment sont-elles devenues, lors de ces semaines sanglantes, des actrices à part entière de ces tueries ? C'est en constatant l'absence de recherche sur ce sujet que l'anthropologue Violaine Baraduc a entrepris un long travail de plus de 10 ans. Entretiens, films, archives judiciaires, observations, dans ce livre, elle retrace notamment le parcours de deux paysannes Hutus, Beata Nirankoko et Patricie Mukamana, qui en sont venus à commettre l'inimaginable, tuer leurs propres enfants, eus avec leur mari Tutsi. Parce qu'elles ont intériorisé la haine de l'autre, parce qu'elles ont voulu, paradoxalement, protéger leurs enfants, leur trajectoire révèle non pas seulement le rôle des femmes dans le génocide, mais la logique génocidaire dont les individus se font le relais. Qu'avez-vous pensé de cet ouvrage important dans la compréhension du génocide rwandais, Pierre Benetti ?
Bon, disons-le tout de suite, hein, c'est un travail majeur, on en rencontre assez rarement parmi les essais. C'est un travail qui renouvelle profondément l'approche du génocide des Tutsis. On est 30 ans après, quasiment jour pour jour, hein, et finalement 30 ans après, on voit bien qu'il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles clés de compréhension, il y a encore des choses qui peuvent être éclaircies par un travail de sciences sociales. Et je tiens à dire que s'il est majeur ce travail, c'est que d'une part c'est une enquête ethnographique au plus près des situations sociales, des itinéraires des acteurs, de l'enquête telle qu'elle se passe avec toutes ces difficultés, mais aussi parce que, eh bien, on voit qu'il y a une manière chez Violaine Baraduc de faire découler les conclusions qui sont très limpides d'une description et d'une narration pure, entre guillemets. Je veux dire par là que toutes ces années de travail, c'est quand même une douzaine d'années hein, d'enquête au Rwanda, qui a été donc c'est à l'issue d'une thèse qu'on lit ce livre, thèse qui a été faite en même temps qu'un film. Donc c'est vraiment un travail conséquent. Et bien, au bout de toutes ces années, il y a une compréhension. Peut-être parfois on se demande si il faut bien tout mettre en lumière comme ça. On va peut-être y revenir hein, sur la question du détail qui est donné, de l'approfondissement de chaque réalité rencontrée dans l'enquête. Je trouve que c'est important parce que on n'en reste pas à une lecture, disons, de l'idéologie raciste, génocidaire qui conduirait des personnes à participer comme ça à une action de violence de masse. Mais Violaine Baraduc va vers les situations de contrainte dans lesquelles sont prises ces femmes rwandaises, notamment la question des ressources auxquelles elles ont accès ou pas, et surtout, là je trouve que c'est un apport vraiment majeur, leur rôle dans la société rwandaise, et elle dit même que leur participation, et notamment cette question très très douloureuse, on peut y revenir, c'est une lecture éprouvante, hein, bien sûr, la question douloureuse de l'infanticide, elle peut être éclairée par la question du genre, et là, il y a vraiment vraiment un apport nouveau, c'est de lire un génocide à partir du genre.
Marie Bouetton.
Moi, j'ai trouvé ce livre absolument capital. C'est une monographie qui suit deux femmes, mais qui dit beaucoup plus que ce qu'il raconte, au sens où il nous éclaire sur la dimension vraiment systémique de ce génocide, puisqu'il va jusqu'à s'immiscer dans des liens qu'on considère a priori comme inconditionnels que sont le lien parent-enfant et là, en l'occurrence, mère-enfant. Et on voit bien comment, au fond, ces femmes, dans une détresse absolue, qui sont donc Hutus, mais qui se sont mariées à des Tutsis, et dans la tradition patrilinéaire rwandaise, les enfants sont donc Tutsis, ces femmes qui sont veuves se trouvent dans une détresse totale et vont donc devoir, pour se protéger, se réaffilier à la seule chose qui leur reste, c'est-à-dire leur clan, le clan Hutu. Et on voit, et avec force des détails en effet, comment les enfants qu'elles amènent au sein de leur clan Hutu vont constituer, parce qu'ils sont aussi une menace pour ce clan. Leur famille va être raquettée, menacée, etc. Et donc ces enfants vont devenir au fond un poids. Et ces femmes vont finir par intérioriser en effet la logique génocidaire, une vision raciale de la société, et finir par commettre l'irréparable et donc par participer elles-mêmes à ce processus. Ce qui est absolument inouï et ce qui défie l'entendement, puisqu'elles ont mis au monde des enfants qu'elles ont jusque-là protégés et qu'on leur demande précisément de mettre fin à leur jour.
Et puis ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'elles avaient dépassé en fait ce clivage entre les Tutsis et les Hutus et qu'il est ressaisi à l'occasion de ce génocide. Est-ce qu'on comprend à travers ce travail de Violaine Baraduc la manière dont Beata et Patricie représentent plus qu'elles-mêmes, représentent véritablement la logique génocidaire, mais aussi la manière dont les femmes participent, ont participé à ce génocide, Pierre Benetti?
Alors, déjà, il y a ces deux cas, mais le livre, à vrai dire, qui est une petite partie de la thèse, il faut préciser, le livre fait référence à plusieurs situations, il y a une mise en regard comme ça de plein de situations différentes, et il n'y a jamais trop de conclusions forcées, disons, qui diraient que bon, bah, finalement, ces femmes ont été conduites, malgré elles, à participer au génocide, ou à l'inverse, qu'elles étaient complètement idéologisées. Alors, pour répondre à la question, il y a quand même une précision qui est donnée sur le rôle précis des femmes dans les actions génocidaires. Il ne se passe pas la même chose quand on est une femme et quand on est un homme, quand on participe à des groupes de tueurs qui circulent dans les collines. Et il se passe évidemment pas la même chose quand on est une femme qui veut, en fait, et elle le montre très très bien, une femme qui veut protéger ses enfants, mais au bout d'un moment, dans cette logique de 100 jours, où il y a une pression très forte quand même sur les actions à mener, sur le fait de sauver sa propre vie, eh bien, il y a des moments où les ressources d'action sont extrêmement limitées. C'est plutôt là-dessus que je voudrais revenir, hein, sur cette idée, cette expression très forte qu'elle a, Violaine Baraduc, c'est de dire que l'infanticide génocidaire, c'est un crime paradigmatique du patriarcat. C'est-à-dire que là, il y a un déplacement.
Donc là, on revient à la question du genre, voilà, dans le génocide.
La situation du génocide, évidemment, elle est exceptionnelle, historiquement, socialement, dans tout ce qui arrive. Et dans le même temps, elle est révélatrice de contraintes structurelles, d'une longue histoire entre hommes et femmes. Et en cela, moi, j'ai trouvé tout au long du livre qu'il y avait un effort, et ça, on reconnaît un travail aussi de sciences sociales ici, c'est de nous rapprocher de ces situations qui nous ont l'air quand même extrêmement lointaines, voire très souvent décrites sous l'angle d'un exotisme un peu étrange qui nous fascine. Il n'y a jamais de fascination dans ce travail pour les actes de violence.
C'est jamais voyeur non plus.
C'est jamais voyeur, et pourtant, chaque détail est développé. Voilà, donc je trouve que ce rapprochement, en fait, de ces situations-là nous aide à sortir ces femmes et ces acteurs de l'opprobre,
du jugement moral,
et ils sont remis à leur place, remises plutôt d'actrices sociales dans un environnement qui, faut dire, est sous contrainte.
Alors, à l'issue de cette lecture, et je le dis quand même, c'est un travail universitaire qui est très précis, qui est très fouillé. C'est pas une lecture non plus fluide d'un essai facile, journalistique, je pourrais dire. Je n'ai rien contre les journalistes, évidemment, mais en tout cas, d'une lecture accessible, où on pourrait dire à la fin du livre, bon ben voilà, les femmes ont fait ça pendant le génocide. C'est beaucoup plus nuancé que ça, on est d'accord,
C'est beaucoup moins manichéen, en effet, notamment l'une d'elles. On voit bien qu'il y a le désir de protéger ses enfants. Je pense notamment à Patricie, qui explique bien que ses enfants risquent d'être tués à tout moment, parce que Tutsi, d'être découpés. Et donc, elle précise bien qu'en fait, elle veut les tuer, les protéger dans la façon de les tuer et leur assurer, par exemple, une sépulture. C'est quand même fondamental d'avoir, il n'y a rien de manichéen là-dedans, d'avoir ce contexte-là pour comprendre le passage à l'acte. Ensuite, c'est une lecture, il faut quand même le dire, extrêmement éprouvante, parce que l'autrice rentre dans les détails. Je pense notamment à ces petites filles qui agonisent toute une journée, auxquelles on a administré de la morora. Bon, c'est très éprouvant. Moi, je me suis vue lire en apnée par moments, comme pour encaisser la page qu'allait suivre. Bon. Par ailleurs, et c'est peut-être le petit bémol que je verrai à ce travail, c'est que, en effet, c'est foisonnant de détails, c'est foisonnant d'analyses étymologiques. Or, bon, quand on maîtrise pas la langue, c'est parfois un petit peu aride. Ça peut, alors que la lecture est déjà éprouvante et elle ne peut que l'être, ça peut peut-être heurter encore un petit peu plus la lecture. Alors, il y a sans doute un souci d'exhaustivité et de rigueur, mais qui rend peut-être, pour le néophyte, la lecture un petit peu difficile.
Et puis, qui peut peut-être, paradoxalement, mettre à distance le sujet. C'est-à-dire que sans tomber dans le pathos, le surcroît d'explication peut le mettre à distance, comme si c'était un phénomène comme un autre, Pierre Benetti.
Oui, mais c'est assez rare quand même de lire, alors je ne sais plus combien il y a de pages qui sont citées au tout début du livre, dans le premier chapitre, il me semble, d'un récit en direct de cette femme qui prend la parole et qui reconstitue, donc ça c'est à travers une prise de parole à une projection du film fait par Alexandre Westphal et Violaine Barduc, donc, qui s'appelle « À mots couverts ». C'est très rare d'entrer à ce point-là dans une parole, sans description, sans jugement, et après, ça permet d'entrer dans l'analyse. C'est sûr que c'est touffu, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une volonté justement de tenir un peu la bride à, non pas nos émotions, mais une forme, je le disais tout à l'heure, de fascination qui pourrait très rapidement s'installer, surtout dans un contexte post-colonial. Il y a eu beaucoup de fascination et d'images et de récits, ça continue d'ailleurs malheureusement, où on exploite quand même une image extrêmement dégradante de ce génocide et des personnes qui l'ont vécu. Et là, c'est vrai qu'il y a une mise à distance systématique, pour moi, qui m'a pas gênée, qui est vraiment un signe de travail analytique.
Et d'une approche assez saine aussi.
Voilà, et on sait quand même systématiquement comment ça s'est passé dans l'enquête, comment on arrive à prouver ce qu'on avance, et ça, c'est assez remarquable.
Vous avez dit tout à l'heure, Pierre Benetti, on pourra revenir sur le fait qu'elle veuille tout dire.
Oui, il y a cette...
Ça veut dire quoi, tout dire ? C'est-à-dire qu'elle en dit trop, finalement, elle fait trop bien son travail ?
Non, on ne va pas...
Elle explique trop bien ?
On ne va pas aller jusque-là. Mais disons que j'ai été frappé au cours de ma lecture sur le fait que je comprenais tout. Je savais tout à la fin du livre. Et pourtant, les études sur les violences de masse et ce génocide des Tutsis... insiste sur le fait qu'il y a toujours une part de... J'ai pas envie de parler de mystère, ça serait gênant et ça serait reconduire un exotisme malvenu. Mais je ne sais pas si Marie, vous avez le même sentiment d'une compréhension totale d'un phénomène social. Et ça, c'est troublant.
Voilà. Totalement, et je dois reconnaître que ce foisonnement de détails que moi, qui m'a un petit peu rendu difficile par moment la lecture, je reconnais que ce foisonnement de détails empêche tout jugement moral définitif sur ces femmes, alors même qu'a priori, elles ont commis l'inconcevable. Et c'est vrai qu'on ressort de cette lecture en voyant très bien l'ultra-complexité du contexte dans lequel elles se trouvent. Et d'ailleurs, c'est très bien rappelé en fin d'ouvrage combien la justice rwandaise, en revanche, elle, n'a pas du tout fait cas de ce contexte.
C'est pas du tout un livre
comme autonome.
Disons, célèbre des termes comme la résilience, la réconciliation, qui sont des termes qu'on emploie depuis 30 ans.
Mais il y a une politique de réconciliation qui est sans cesse remise, réajustée.
Les archives judiciaires ne sont pas traitées comme les seules sources d'enquête. Elles sont même remises en cause, puisqu'on voit bien que dans ces procès, la situation singulière de ces femmes n'a pas du tout été prise en compte. Il se trouve qu'aussi les enfants qui ont survécu n'ont pas été non plus pris en compte. Et on est à la fois à la marge de l'assignation ethnique, j'ai pas envie de dire de l'ethnicité parce que c'est une question complexe, mais on est à chaque fois à la marge de groupes sociaux Hutus et Tutsis qui ont été racialisés dans cette dynamique génocidaire. Ces femmes-là sont entre deux et on est aussi à la marge du genre, parce que, en tant que mère, et elle le montre très très bien à la toute fin du livre, Violaine Barduc, en tant que mère, elles étaient appelées à protéger, à sauver, à nourrir ses enfants dans un système patriarcal très fort, disons, où leur rôle était comme ça assigné au bien-être des enfants, et dans une dynamique à la fois de guerre et de génocide simultanément, leur rôle a été profondément redéfini.
J'ajoute juste une chose sur Violaine Barduc, puisque son travail de recherche est vraiment foisonnant avec ce film, ce livre, mais aussi le fait qu'elle ait travaillé donc sur les conditions carcérales de ces femmes en prison. C'est là où elle a mené son entretien, aussi sur la mémoire du génocide, que là, elle va s'intéresser à la paix, justement, parce qu'il y a 20 000 prisonniers qui vont sortir, là, qui achèvent en fait leur peine et vont sortir. Donc là, elle va travailler maintenant sur la paix, sur justement l'idée de réconciliation. Donc un travail à suivre.
De Violaine Baraduc est publié aux éditions CNRS. Il s'intitule « Tout les oblige à mourir, l'infanticide génocidaire au Rwanda en 1994 ». Vous retrouvez toute la programmation spéciale de notre chaîne en cette année commémorative sur le site de France Culture.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent de l'essai d'Emmanuel Bobaty, « Ne suis-je pas une féministe ?» aux éditions du Seuil.
That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and given the best place wherever. Nobody helps me into carriages, nor over the muddy patches. It gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could best me ever. Ain't I a woman?
Ne suis-je pas une femme, demande Sojourner Truth, ex-esclave et militante noire en 1851, à une assemblée de femmes dans l'Ohio. Ne suis-je pas une femme, demande à son tour Bell Hooks, théoricienne du féminisme noir, dans son ouvrage éponyme en 1981. Ne suis-je pas une féministe, demande enfin Emmanuel Bobaty, sociologue, dans ce libelle des éditions du Seuil, affrontant par là l'exclusion actuelle des personnes trans dans les rangs féministes. Retraçant l'histoire au nom de la nature ou de l'universalisme, de ces exclus du féminisme, lesbiennes, femmes noires ou travailleuses du sexe, se révèle cette problématique. Comment, avec quel concept, avoir un mouvement unifié sans dissoudre ni rejeter les singularités? Alors, loin d'ériger l'inclusion comme la seule solution, Emmanuel Bobaty fait émerger le concept de mobilité de genre sur le modèle des mobilités sociales. C'est original et convaincant de mon point de vue. Avez-vous été convaincue, Marie Boëton?
Tout à fait. J'ai trouvé que c'était un petit opus très court, très pédagogique, très intéressant, c'est-à-dire que c'était à la fois rigoureux et tout à fait accessible, et ça nous montre bien en fait l'évolution du féminisme, la coexistence des féminismes, en nous montrant bien l'évolution de son périmètre, de ses conflits, et en montrant comment certaines féministes aujourd'hui tentent de marginaliser des populations féminines minoritaires, ethniquement, trans, lesbiennes, au nom de l'universalisme. Et on voit bien comment cette vieille garde, c'est en tout cas comme ça que les présentent les jeunes générations, qui, pour le dire de manière très manichéenne, sont souvent blanches et hétérosexuelles, considèrent qu'au fond, l'intersectionnalité n'aurait pas lieu d'être. Et je trouve qu'à travers un certain nombre d'exemples qui sont très bien choisis, l'auteur nous montre combien, je prends l'exemple par exemple des violences conjugales, elles ne se posent pas de la même manière dans un couple de lesbiennes, où l'empreinte patriarcale évidemment n'est pas présente. Je crois qu'il convoque aussi un exemple américain sur les femmes noires aux États-Unis qui peuvent, lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales, hésiter à déposer plainte à la police parce que
elles se sentent en sécurité chez elles.
Et on voit bien combien les féministes qui refusent cette prise en compte de l'intersectionnalité invoquent au fond une forme d'universalisme qui est un peu un ethnocentrisme qui s'ignore. J'ai trouvé que c'était vraiment assez magistralement démontré.
Pierre Benetti.
Oui, oui, je suis d'accord. C'est très intéressant de repartir de cette phrase de Sojourner Truth, ancienne esclave et militante pour les droits, dès 1851, parce que on voit bien dans ce livre que c'est un questionnement qui relie, par définition, des espaces, des vies qui sont... en vérité séparés dans les manières de penser les choses encore aujourd'hui, y compris au sein des luttes féministes. Donc c'est très vif et convaincant. Cependant, comme d'habitude avec ce genre de format...
Voilà, c'est libelle, c'est voilà, comme les tracts.
La question se pose de est-ce qu'on peut entrer un peu en complexité. Ça ne veut pas dire faire un long essai comme on vient de le lire en première partie des missions. Hein. Mais là, avec le livre d'Emmanuel Beaubaptiste, plus qu'une tribune ou un texte d'intervention, moi j'ai eu le sentiment d'assister au début d'une vraie réflexion de recherche. Mais à peine est-on arrivé au bout qu'on se met à se poser des questions. Et bon, peut-être d'une certaine manière que c'est le but, puisque le sous-titre de la collection Libelle, c'est alerter, informer, questionner. Alors, donc ça marche très bien. La démarche, elle est très intéressante, hein, parce qu'elle replace la question non pas seulement dans les études queer, mais dans l'histoire longue de la pensée féministe. Alors, très souvent, on a cette mention « les féministes ». On ne sait jamais trop... de qui on parle, on repère vite si on lit un peu.
Il y a
peu,
une typologie des années 70 voilà. Quand même.
Le livre d'ailleurs est assez occupé hein, par cette dimension historique. Oui. Ça c'est plutôt bien, ça donne des repères. Mais ce terme de féministe englobe quand même de nombreuses familles ou de particularités. Là où ça marche, c'est qu'elles sont à chaque fois vues, ces familles du féminisme, au prisme de l'histoire des réactions à la dynamique trans. Qui a en fait une dynamique qui démine en fait qui va au-delà des de tous les cadres et qui oblige à les repenser.
Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est que on s'attend comme c'est un libelle à ce que Emmanuel Beaubaty affronte la question de pourquoi les trans sont rejetés, notamment par le mouvement en fait qu'on appelle les TERF, donc qui veulent exclure justement être exclusivement des femmes ou des féministes, comme ils disent dans le mouvement féministe. Donc on s'attend à cette question-là actuelle. Et en fait, très intelligemment, Emmanuel Beaubaty nous retrace ça, nous réinscrit ça dans une histoire longue des exclus du féminisme, qui fait qu'on comprend que il n'y a jamais eu qu'un féministe, que ça a toujours été divisé. Ce qui pose aussi cette question de, finalement, est-ce qu'on doit faire avec ces divisions-là? Est-ce qu'on doit s'en contenter? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Et ça, est-ce que Emmanuel Beaubaty répond à cette problématique, Marie Boëton?
Alors, pour moi, il amène parfaitement bien la question qui est de savoir si, au fond, ces différents combats menés par des femmes s'inscrivant dans des contextes très différents. Est-ce que ces différents combats peuvent s'additionner sans se dénaturer, sans s'annuler mutuellement? Il l'amène très bien, cette question. Et là où je suis un petit peu déçue, c'est qu'autant je trouve qu'il fait preuve vraiment de pédagogie et c'est vraiment très intéressant, autant là je trouve qu'il répond en militant, et il a tout à fait le droit de le faire. On est dans un libelle, donc il est tout à fait à sa place. Mais je trouve que la réponse militante, à mon sens, est trop catégorique. C'est-à-dire qu'il répond oui, de manière définitive et radicale. Oui, pour le dire de manière simple, le féminisme doit être inclusif, quelque part. Et là, je trouve qu'il a peut-être raison. Simplement, je trouve qu'il ne le démontre pas. Là, pour moi, il y a quand même une lacune argumentative. Certains vous diraient, par exemple, que le militantisme, c'est un jeu à somme nulle. Et que lorsque vous mettez un combat en avant, médiatiquement, c'est au détriment d'un autre. Pareil pour l'octroi de subventions, pareil pour le portage politique. Donc, est-ce que là, il faut absolument que tous ces combats en faveur des trans, en faveur des couples lesbiens, etc., qui sont des combats très différents, est-ce qu'il faut qu'ils émargent tous au sein d'une seule et même bannière que serait le féminisme, au risque, encore une fois, de s'invisibiliser mutuellement? Ou est-ce qu'il faut, parce qu'ils sont tous légitimes, qu'ils soient menés sur un terrain beaucoup plus large que serait celui des droits humains? Et je trouve que là, sa réponse est catégorique et un peu lacunaire dans l'argumentation.
Alors, justement, moi, sur l'inclusion ou l'inclusivité, parce que c'est un des derniers chapitre, mais bon, c'est tellement court que je dis sous-chapitre déjà, il y a plutôt une critique intéressante qui est proposée de l'inclusion, où Emmanuel Beaubaty nous dit, dès qu'on parle d'inclusion, maintenant c'est un terme un petit peu galvaudé, ça présuppose quand même qu'il y a une possible exclusion. Et à ça, il préfère quand même ce concept de mobilité de genre, calqué sur celui de mobilité sociale. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est là où effectivement on est frustré parce qu'on en veut plus en fait.
Mais il faisait référence à la fois à la controverse de l'exclusion des personnes trans du champ du féminisme dans son livre Transfuge de sexe qui était paru à la Découverte là il y a 2 ans. Ça m'a assez frappé cette toute dernière page. Ces 3 pages, elles appellent au livre suivant d'une certaine manière. J'espère qu'on va le lire, notamment avec une phrase très forte. Ce savoir incluse, c'est savoir qu'on pourrait ne pas l'être. Et y a des phrases comme ça dans ce libelle qui soudain, lance la réflexion dans des coins où on s'y attendait pas forcément. J'en cite une autre. Le sujet politique du féminisme déborde le sujet femme. Et de fait, les personnes trans, je suis d'accord. Évidemment, c'est un libelle militant et universitaire, mais s'intéresser à la dynamique trans et à ses relations avec les féminismes, ça bouge forcément les féminismes eux-mêmes.
Et autre, Marie Boëton,
oui,
vous voulez répondre.
Je trouve qu'il explique très très bien comment le féminisme des années 60 et 70, au fond, ne remettait pas en question, comme il le dit, le contrat sexuel, l'ordre sexuel. Là où en effet, les problématiques trans, lesbiennes, etc., évidemment, transgresse ce contrat social-là. Et ça, c'est très intéressant. Il explique très bien cette évolution-là du féminisme.
Et puis, il insiste, en s'appuyant sur Bourdieu, qu'il faut en finir, comme Bourdieu, on avait fini avec la binarité riche-pauvre, pour le dire très rapidement, il faut en finir avec homme-femme, la binarité homme-femme, pour vraiment penser à un espace multidimensionnel où, en fait, on ne se penserait pas seulement femme, seulement hétéro, seulement lesbienne, seulement... Mais tout ça serait, en fait, des positions qui pourraient être nuancées au fur et à mesure des existences. Ça, c'est quand même aussi une thèse forte.
Alors, il y a encore du chemin à faire sur ce plan-là. Il renvoie aussi il y a un concept assez intéressant de Rewin Connell dans son livre sur les masculinités. D'ailleurs, on peut le signaler, il paraît en poche chez Payot, qui insiste sur les pratiques de genre. Et que finalement, on est plutôt défini par nos pratiques de genre ou bien les manières dont on est assigné à un genre que, évidemment, à des définitions trop figées.
Emmanuelle Bobatti, Ne suis-je pas une féministe ? C'est aux éditions du Seuil Collection Libelle. Merci à tous les deux, Marie Boëton. On vous lit dans La Croix, l'Hebdo, et merci à vous, Pierre Benetti. On vous lit dans le journal En attendant Nado. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.